Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le dimanche 13 janvier. Oui, c'était un petit peu compliqué pour déterminer quelle était la fête d'aujourd'hui, puisque en ce dimanche 13 janvier, c'est assez rare liturgiquement parlant, il y a trois fêtes qui tombent le même jour. Il y a d'abord la fête de la Sainte Famille. Il y a le dimanche dans l'octave de l'Épiphanie et il y a le jour octave de l'Épiphanie. Trois fêtes en plus qui sont consacrées à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je pense que c'est la fête du jour octave de l'Épiphanie. On appelle aussi la fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ qui prend la tête parce que c'est un double majeur privilégié de première classe. Alors que, pour la petite histoire, le dimanche dans l'octave de l'Épiphanie est un dimanche privilégié de deuxième classe. Donc c'est la fête aujourd'hui du jour octave de l'octave de l'Épiphanie. Et en ce jour, notre Seigneur Jésus-Christ est baptisé par Saint Jean-Baptiste dans le Jourdain. Vous savez, j'avais déjà expliqué ça, que la fête de l'Épiphanie rappelle la triple manifestation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle ce texte très beau qu'il en tienne un magnificat de l'Épiphanie de notre Seigneur au 6 janvier. Trois miracles ont marqué le saint jour que nous fêtons. Aujourd'hui, l'étoile a conduit les mages à la crèce. Aujourd'hui, l'eau s'est chargée en vin à la table de noces. Aujourd'hui, le Christ a voulu être baptisé par Jean dans le Jourdain afin de nous sauver. Et donc, en un 6 janvier, trois années différentes, notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa divinité. D'abord par l'arrivée des mages, j'ai déjà expliqué, j'y reviens pas. Les mages offrent à notre Seigneur Jésus-Christ, petit bébé, l'encens, qui est le symbole de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est aussi en un 6 janvier, selon la tradition, que notre Seigneur Jésus-Christ a fait son premier miracle à Cana de Galilée et ses disciples crurent en lui. Et c'est aussi en un 6 janvier que notre Seigneur Jésus-Christ a été baptisé dans le Jourdain par Saint Jean-Baptiste. C'est pour cela qu'on retrouve les trois fêtes côte à côte dans la liturgie. Le 6 janvier, l'Épiphanie de notre Seigneur, la visite des mages. Le jour octave de l'Épiphanie, donc une semaine après, le 13 janvier, aujourd'hui donc, c'est le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dimanche prochain, le deuxième dimanche après l'Épiphanie, l'évangile sera l'évangile du premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ à Cana en Galilée. C'est vraiment la manifestation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors du baptême par Saint Jean-Baptiste de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur a voulu donner l'exemple, il n'avait pas besoin d'être baptisé évidemment, parce qu'il n'avait pas le péché originel, il était Dieu, il est Dieu. Mais il a voulu être baptisé pour donner l'exemple. Et en même temps, il a voulu que fût manifesté le moment de son baptême de façon visible, audible par tous, la manifestation de la Sainte Trinité. Les trois personnes de la Sainte Trinité vont apparaître pendant le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès qu'il fut baptisé par Saint Jean-Baptiste, Jésus sortit du fleuve, dit le texte sacré. Tandis que la foule se faisait baptiser, que Jésus priait sur la rive, soudain les cieux s'ouvrirent et l'Esprit Saint descendit visiblement sous la forme d'une colombe et se reposa sur lui. En même temps, une voix du ciel se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toutes mes complaisances. Donc on voit bien les trois personnes, notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, qui descend dans l'eau pour être baptisé par Saint Jean-Baptiste, la colombe qui vient se reposer sur sa tête, symbole du Saint-Esprit, et Dieu le Père qui parle, par ses fortes paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui, j'ai mis toutes mes complaisances. Et on va retrouver cette même parole, mot à mot, cette même phrase, mot à mot, lors de la transfiguration, mot à bord, devant les trois apôtres, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. C'est donc le rappel du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ que nous fêtons aujourd'hui. Cela doit nous rappeler l'importance de notre baptême. Je pense que, malheureusement, Même dans les milieux de la tradition, on ne comprend peut-être pas assez l'importance du baptême. Lorsqu'un enfant naît, il faut baptiser l'enfant le plus vite possible. Avant, c'était la tradition. Dans les siècles de foi, au Moyen-Âge par exemple, bon, je sais bien que c'était beaucoup plus facile parce qu'il y avait des églises partout et en général, au moment de la naissance, le bébé naissait toujours à la maison directement. Il n'y avait pas de maternité à l'époque. Et c'était d'ailleurs bien mieux comme cela que l'enfant naisse directement à la maison. C'est ce qu'il y a de plus sain. Et pour l'enfant et pour la maman. Et tout de suite, le papa prenait le bébé dans une couverture et le conduisait à l'église. Il était baptisé immédiatement et le bébé revenait à la maison tout de suite. Donc quelques heures après sa naissance, il était baptisé. Et la règle, la tradition était bien gardée. La maman et le papa et les frères et sœurs n'embrassaient pas l'enfant nouveau-né avant le baptême. On attendait le baptême. Je vous assure que ça a augmenté la rapidité du baptême, hein. Le baptême était bien vite décidé, justement parce que les parents, avec raison, voulaient embrasser leur petit. Et donc, il ne faut pas attendre et baptiser l'enfant le plus tôt possible. Demander au prêtre, dans la tradition bien sûr, de venir faire toutes les prières. Dans certains cas d'urgence, le papa peut lui-même faire l'ondoiement directement, mais il faut qu'il y ait une raison grave. S'il n'y a pas de raison grave, il n'a pas le droit de le faire. Il faut à ce moment-là attendre que le prêtre puisse venir le plus tôt possible pour faire toutes les cérémonies du baptême qui sont magnifiques. Et donc, il faut comprendre l'importance de ce baptême. Je pense que malheureusement, dans la tradition, c'est ce que je voulais vous dire aussi, on ne pense pas suffisamment à remercier le bon Dieu pour le baptême. Pensez à ces millions de personnes qui ne sont pas baptisées, qui vont vivre sur la terre, qui vont passer 60 ou 80 ans sur cette terre sans même savoir pourquoi le bon Dieu les y a mis, qui ne savent même pas qu'ils y ont été mis d'ailleurs par le bon Dieu. Nous, nous sommes baptisés, nous avons reçu la grâce du baptême. Par la grâce du baptême, nous avons reçu la grâce de la charité. La foi, l'espérance, la charité, toutes les vertus infuses, nous a été donné le jour du baptême. Nous avons la grâce sanctifiante en nous. L'âme d'un petit bébé récemment baptisé, c'est le paradis sur la terre. C'est le paradis dans la famille. C'était aussi une des traditions du Moyen-Âge de faire la prière du soir devant le landau du nouveau-né. Parce que le bon Dieu était vraiment présent dans la maison. Par le nouveau-né, par la grâce sanctifiante présente dans cette âme qui venait d'être baptisée. Alors pensez, mes bien chers frères, remerciez le bon Dieu pour la grâce du baptême, même si cette grâce vous l'avez reçue il y a bien longtemps. Rendons grâce à Dieu pour le baptême. Pensons à demander pardon pour notre ingratitude. Bien souvent, on ne pense même pas remercier. On a reçu un cadeau du bon Dieu magnifique, on ne pense même pas le remercier. C'est triste quand même. Et pensez aussi à tous ceux qui ne recevront pas ce cadeau, parce que chaque âme est différente. Beaucoup de gens, malheureusement, autour de nous, n'auront pas reçu le baptême. Ou alors, dans bien des cas, même avec l'Église de Vatican II, je dis pas que tous les baptêmes sont invalides dans l'Église de Vatican II, mais un bon paquet d'entre eux sont invalides, hein, parce qu'ils font du n'importe quoi, ils ne croient plus à rien du tout. Mais il faut avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. Comme la plupart des prêtres de l'Église du Vatican II ne croient plus au péché originel, je ne vois pas comment leur baptême peut être valide. Alors remercions le bon Dieu pour ce baptême. Le bon Dieu aussi nous parle du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est la fête d'aujourd'hui, strictement parlant, c'est celle-là qui prime. Voilà l'oraison du jour qui est magnifique. Dieu, ô Dieu, dont le Fils unique se manifesta jadis dans la substance de notre chair. Faites que, confessant sa divinité sous des dehors semblables aux nôtres, nous soyons au-dedans réformés par lui et qui, avec vous, vit et règne en unité du Saint-Esprit dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Méditons aussi sur la Sainte Famille, puisque c'est aussi la fête de la Sainte Famille aujourd'hui, cette Sainte Famille extraordinaire. Notre Sainte Vierge Marie, notre Seigneur Jésus-Christ, l'enfant Jésus et Saint Joseph. L'oraison de la Sainte Famille doit être aussi méditée. Seigneur Jésus-Christ, qui dans votre soumission à Marie et à Joseph, avez consacré la vie de famille par la pratique d'ineffables vertus, donnez-nous leur aide pour mettre à profit l'exemple de la Sainte Famille et obtenir de partager au ciel son bonheur éternel. voyez, cette oraison insiste dans la vie de famille sur la nécessité de l'obéissance, soumission de notre Seigneur Jésus-Christ à Marie et Joseph. Un mystère insondable. La deuxième personne de la très sainte Trinité qui se soumet à Saint Joseph, le chef de famille, le chef de la sainte famille, la très sainte Vierge Marie, infiniment plus sainte pourtant que Saint Joseph, puisqu'elle est Immaculée Conception, ce qui n'est pas le cas de Saint Joseph, la très sainte Vierge Marie qui se soumet à l'autorité de son époux, qui est le chef de famille. Saint Joseph donnait des ordres à la Sainte Vierge. Saint Joseph donnait des ordres à l'enfant Jésus. Et l'enfant Jésus obéissait. Quand Saint Joseph a dit, voilà, il faut partir, j'ai reçu la visite d'un ange, il faut se lever en pleine nuit, et puis on part en Égypte, parce que Hérode cherche à tuer l'enfant, et bien tout le monde a obéi, on part, sans poser de questions. La Sainte Famille nous aide, mes bien chers frères, à comprendre l'importance de cette vie de famille, l'importance de la famille, qui est la cellule de base de la société. C'est dans nos familles que se maintiendra, dans nos familles catholiques, que se maintiendra, pardon, ou se perdra, les fondations même du catholicisme. Le berceau du catholicisme, c'est la famille catholique. Qu'il n'y ait, je vous en supplie, qu'il n'y ait pas que les musulmans qui aient des enfants. Quelle tristesse de voir que des gens qui n'ont pas la foi catholique acceptent les enfants alors que nous, on les refuse. Bon, certes, les musulmans, pour avoir des enfants, pratiquent la polygamie, ce qui est absolument impossible pour nous catholiques, bien entendu. Mais que nos familles catholiques soient créées, soient sises à l'exemple même de la Sainte Famille. Qu'on retrouve dans toutes nos familles catholiques, donc ces trois fondements qui sont les conditions mêmes du contrat matrimonial, l'unité, l'indissolubilité et l'acceptation des enfants. Unité, c'est-à-dire un homme et une femme, et rien d'autre, malgré tout ce que dit le monde moderne sur le sujet. L'indissolubilité, pour bien montrer qu'on se marie, pour bien nous faire comprendre qu'on se marie pour la vie entière. Seule la mort sépare ce que Dieu a uni, et l'acceptation des enfants. Et je vous en supplie, mes bien chers frères, ne tombez pas dans le panneau, malheureusement, dans lequel tombent trop de catholiques qui acceptent ce qu'on appelle pieusement, malheureusement, des annulations de mariage. Il n'y a pas d'annulation de mariage. Un mariage ratifié et consommé entre deux catholiques ne peut pas être annulé. C'est absolument impossible. La théologie catholique, le catéchisme catholique nous enseigne qu'un mariage ratifié et consommé entre deux catholiques ne peut être annulé par aucune puissance au ciel et sur la terre. Ça veut dire que même Dieu lui-même ne peut pas annuler un mariage catholique ratifié et consommé. C'est impossible. Alors quand on pense que maintenant, dans l'église de Vatican II, et malheureusement aussi en grande partie dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, on accepte des soi-disant annulations de mariage, plus ou moins pour manque de maturité. Quel désastre, mes bien chers frères, quel désastre. Vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la mort de l'un des deux conjoints. Seule la mort détruit le lien conjugal. Pour moi, c'est pareil, je suis prêtre, je peux pas changer la chose. Je suis prêtre, que ça me plaise ou non, c'est comme ça, et ce sera comme ça pour moi pour toute l'éternité. Puisque la mort ne rompt pas, ne détruit pas le lien de mariage qui unit notre Seigneur Jésus-Christ avec son prêtre. Pour nous, prêtres, nous avons en plus ce que vous n'avez pas dans le mariage chrétien. Nous avons une union beaucoup plus forte, marquée par un caractère. Le sacrement de l'ordre donne un caractère. Le prêtre est prêtre pour toute l'éternité. Au ciel, purgatoire, en enfer, il sera prêtre. Il reste prêtre. Et donc, mes bien chers frères, si pour ceux qui ont malheureusement parfois des tentations à cause de mauvaises fréquentations, de mauvaises lectures, du contact trop poussé avec des gens qui ont eu soi-disant une annulation de mariage, Eh bien, ne tombez pas dans la tentation de demander ces annulations de mariage. Vous êtes mariés, et personne ne peut détruire ce lien qui vous unit. Seule la mort peut détruire ce lien. La Sainte Famille, c'est ça. La Sainte Famille, c'est la cellule de base de la société. C'est l'exemple qui doit nous être donné pour tous les catholiques, tous les catholiques mariés. Vous êtes mariés. Et cette union entre vous et votre épouse, entre l'époux et l'épouse, est scellée par le sang même de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que le mariage, non seulement est fondé sur l'unité, l'indissolubilité, l'acceptation des enfants, mais il donne en même temps ce qu'on appelle les trois biens du mariage. La foi, le sacrement et les enfants. C'est un sacrement, attention. Et c'est un sacrement basé sur la fidélité, fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ, fidélité entre les époux, justement pour que tout soit mis en œuvre pour accepter les enfants que le bon Dieu vous donnera. Et si le bon Dieu ne permet pas, pour une raison qu'il connaît, que vous ayez des enfants, c'est une croix bien lourde pour des époux, ne pas pouvoir avoir d'enfants. Rappelez-vous que vous vous sanctifiez quand même parce que c'est un sacrement extraordinaire. Vous formez une famille catholique même si vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Je dis ça pour certaines personnes que je connais qui paniquent un peu parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Eh bien, mettez tout ça entre les mains du bon Dieu. Le bon Dieu sait ce qu'il fait. Le troisième point sur lequel je voudrais insister dans ce sermon, et c'est la présentation de notre Seigneur, c'est pas la présentation, Jésus qui reste au temple de Jérusalem, c'est l'évangile de la fête de la Sainte Famille. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils montèrent à Jérusalem, la Sainte Famille, donc tous ensemble, selon la coutume de la fête. Et l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils marchèrent durant un jour et le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Imaginez-vous un petit peu, mettez-vous à la place de la Très Sainte Vierge Marie et Saint Joseph. Ils ont perdu l'enfant Jésus. Imaginez la désolation dans laquelle devait être Saint Joseph, le chef de famille. J'ai perdu l'enfant Jésus. Où est-il? Comment se fait-il qu'il ne soit pas avec nous? La Très Sainte Vierge Marie et Saint Joseph ont cherché partout dans la caravane. Ils ne le trouvent pas. Tout inquiet. Il rentre sur Jérusalem pour le chercher, et pendant 3 jours, ils vont le chercher. Imaginez une mère de famille, imaginez une d'entre vous qui m'écoute sur Internet, hein, qui est une mère de famille, qui a un enfant de 12 ans, qui perd son enfant de 12 ans en plein centre de Paris, et qui perd son enfant pendant 3 jours. Imaginez un peu l'angoisse de cette maman, l'angoisse du papa de ce petit. L'angoisse des frères et sœurs. Il n'y a pas de frères et sœurs pour notre Seigneur Jésus-Christ, mais il avait un père putatif, Saint-Joseph, et une mère, la Sainte Vierge Marie. Imaginez l'angoisse extraordinaire, épouvantable des parents. Ce ne fut qu'après 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de la sagesse de ses réponses. Et voyant cela, ils furent étonnés. Et sa mère lui dit, « Mon fils, pourquoi avez-vous agi ainsi avec nous? Voici que votre père et moi, nous vous cherchions tout affligés. » Et notre Seigneur Jésus-Christ leur répond une phrase étonnante. « Ne s'achevez-vous pas? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. L'Évangile rajoute aussi que la Très Sainte Vierge Marie, je vous ai déjà cité cette phrase que j'aime beaucoup, elle méditait sans cesse en son cœur, en son âme, se répétant ces paroles. Pourquoi mon fils a-t-il dit cela? Elle ne comprenait pas tout. Elle comprit beaucoup de choses. Et au moment de la Passion, elle va tout comprendre, ou presque tout comprendre, au moment où elle va recevoir le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte avec les apôtres. Et cette phrase est une phrase que les parents doivent souvent méditer. « Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père ? N'oubliez pas, mes bien chers parents, que vos enfants ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent au bon Dieu. C'est lui qui est le patron. C'est lui qui est le propriétaire des âmes de vos enfants. C'est pas vous. Vous êtes en charge. Vous êtes en quelque sorte les responsables. Mais c'est Dieu qui est le propriétaire de ces âmes. Et quand Dieu dit « Ne savez-vous pas qu'il fallait que je sois... Je fus aux affaires de mon Père, s'adresse aussi pour nous. C'est pour cela qu'un jour, l'enfant quittera quittera sa famille, quittera le cocon familial pour voler de ses propres ailes. Nos enfants ne sont pas pour nous. Certes, il faut les préparer, c'est le rôle de l'éducation dans la famille, préparer les enfants pour que ces enfants, justement, puissent, une fois sortis, garder la foi. C'est une grande anxiété pour les parents, mais aussi pour nous, prêtres, pour la fin d'année. Là, j'ai reçu un coup de téléphone d'un jeune d'Australie que je connais bien. Alors, c'est un fidèle qui a maintenant la trentaine, qui cherche une bonne épouse, mais qui a toujours pas trouvé chaussure à son pied, comme on dit vulgairement. Donc, j'ai parlé avec lui au téléphone. La première condition, la première question que je lui ai posée, c'est celle-là. Est-ce que vous avez conservé la foi? Est-ce que vous avez conservé l'usage de la confession? Est-ce que vous avez conservé votre chapelet tous les jours? Et j'étais tout content de savoir qu'il l'avait fait. Et je lui ai dit que pour moi, c'était bien plus important pour lui qu'il ait conservé la foi, qu'il ait conservé son chapelet, la confession fréquente, même s'il n'a pas trouvé, plutôt que d'avoir trouvé une épouse, qui valait mieux ne pas être marié que d'être mal marié, comme on dit. Alors, formez vos enfants, mes bien chers frères, pour qu'ils puissent conserver la foi. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Et dans cette phrase, ne savez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père? L'Église a toujours compris cette phrase comme étant un symbole du départ des enfants, soit dans la vie commune, ce qu'on appelle le mariage, soit dans la vie consacrée, à savoir la vie contemplative, la vie consacrée au bon Dieu qui est au-dessus de la vie active. Actuellement, dans le commentaire de saint Thomas que je donne et que je mets sur toutes les semaines sur le site d'Anne-Marie, je parle j'explique la partie de la seconda seconde, deuxième partie de la somme théologique de saint Thomas sur la vie contemplative. Justement, il y a des phrases magnifiques. Je voudrais vous en lire une. En fait, c'est une citation de saint Grégoire, mais citée par saint Thomas d'Aquin. Voilà ce qu'il dit. Ceux qui veulent occuper la citadelle de la contemplation. Contemplation de la vérité, c'est ce qu'il veut dire. Ceux qui veulent occuper la citadelle de la contemplation doivent s'éprouver au préalable sur le champ de bataille de l'action. Ils doivent s'assurer qu'ils ne causent plus aucun préjudice à leur prochain, qu'ils supportent patiemment celui que le prochain peut leur causer, que devant l'abondance des biens temporels, leur âme ne s'abandonne pas à une joie déréglée, que la perte de ces biens ne les afflige pas sans mesure. Ils doivent s'assurer aussi que lorsqu'ils rentrent en eux-mêmes pour y méditer les vérités spirituelles, ils ne traînent pas avec eux les images des affaires corporelles, ou s'il en a traîné, qu'ils les discernent et les chassent. Donc, l'exercice de la vie active est profitable à la vie contemplative en ce qu'il apaise les passions intérieures d'où proviennent ces imaginations qui empêchent la contemplation. Demandez, mes bien chers frères, demandons, en ce temps d'épiphanie, demandons la grâce d'un esprit contemplatif. La vie contemplative est aussi pour les parents. Les parents doivent avoir une partie de leur vie qui reste dans la contemplation de la vérité. Malheur aux gens qui tombent tellement dans l'action qu'ils n'ont plus le temps de prier. Donc la contemplation a une priorité en importance sur la vie active. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces vérités qui sont tellement belles et qui ne sont pas toujours très faciles à comprendre. Je voudrais terminer par la post-communion que l'Église a choisie pour la Sainte Famille. Donnez, Seigneur Jésus, à ceux que vous fortifiez de vos célestes sacrements, d'imiter sans cesse l'exemple de la Sainte Famille, afin qu'à l'heure de notre mort, votre glorieuse Mère et le bienheureux Saint Joseph, venant au-devant de nous, nous soyons accueillis par vous dans les tabernacles éternels. Demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses, à les mettre à fond de notre cœur pour que ces choses deviennent comme la colonne vertébrale de nos familles catholiques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.